La semaine dernière, pas cette semaine, la semaine dernière, il y a un grand monsieur qui est décédé, Billy Graham, qui est décédé à l'âge de 99 ans. Un homme qui a annoncé l'Évangile pendant plus de 40 ans de ministère. Il est né en 1918, en février 1918, puis, excusez-moi, en novembre 1918, puis il est décédé le 21 février. Et puis cet homme-là a été parfois critiqué. C'est évidemment quand tu as un ministère public, tôt ou tard, peut-être qu'il y a des choses que tu dis qui dérangent ou des choses où on n'est pas tout à fait d'accord, mais cet homme a été reconnu pour sa fidélité à prêcher l'Évangile pendant toutes ces années-là. Et probablement que dans l'histoire de l'Église, il n'y a personne qui a annoncé l'Évangile à autant de gens dans le monde. Des millions et des millions de personnes ont entendu l'Évangile prêché par Billy Graham. Et il a su, par la grâce de Dieu, se préserver des scandales moraux, puis de toutes sortes de choses qui auraient pu discréditer vraiment tout ce beau ministère-là. Et une des plus grandes qualités, selon son propre dire à lui, une des plus grandes qualités de Billy Graham, et tout le monde le lui reconnaissait aussi, c'était la simplicité de sa prédication. Il prêchait simplement l'Évangile, bien ancré dans les Saintes Écritures. En fait, une citation de Billy Graham va comme ceci. « J'ai observé que lorsque je présente l'Évangile de Jésus-Christ simplement, avec l'autorité qui vient en citant la parole de Dieu, c'est ensuite lui qui prend ce message et le dépose de façon surnaturelle dans le cœur humain. » C'est vraiment une belle inspiration pour nous, pour annoncer l'Évangile avec simplicité, sans se casser trop la tête avec de la rhétorique à tout casser, mais simplement citer les Saintes Écritures, puis aller, puis présenter l'Évangile, et qu'on puisse être inspiré par des hommes semblables qui ont prêché l'Évangile comme ça, partout sur la terre, sans soucier de ce que les gens penseraient de lui, sans soucier d'avoir, comme je le disais, une rhétorique incroyable, un argumentaire qui va comme faire taire tout le monde. C'est le travail de l'Esprit de Dieu de faire ça. Nous, on doit prêcher l'Évangile. Et si on commence à prier sérieusement comme Église pour avoir des opportunités d'annoncer l'Évangile, si on commence à chercher sérieusement des opportunités pour prêcher l'Évangile, nous allons avoir des occasions de le faire. Alors, ensemble, ce matin, on veut se poser la question, qu'est-ce qu'on dit exactement? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on a l'opportunité d'annoncer l'Évangile? Puis comment on le fait aussi? Quelle attitude, quelle approche on veut avoir avec les gens? Ça va vraiment être l'objet de l'exposé de cette semaine, puis de la semaine prochaine. On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu avec Julie. Seigneur Jésus, nous venons pour élever ton saint nom ce matin. Seigneur, ce matin, on va plonger les regards dans ta parole. Nous allons parler de ton œuvre à toi, Seigneur. Nous allons parler de toi, de ce geste que tu as posé il y a 2000 ans, Seigneur. On va le célébrer à travers nos chants, à travers nos louanges. On va le célébrer, Seigneur, aussi à travers ce repas que tu nous as laissé, ce mémorial à célébrer en Église pour renouveler, Seigneur, notre engagement avec toi. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Que par ton esprit, tu viennes te servir de ta parole et de ce temps qu'on met à l'écart pour te célébrer, pour t'écouter, Seigneur. Viens nous transformer. Parce que nous croyons profondément que c'est en contemplant ta gloire, en réalisant ton œuvre en notre faveur, que nous sommes transformés à ton image, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Corinthiens 15 au verset 1 à 11 dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 15 dans la nouvelle édition de Genève. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru.
Merci Julie. C'est un court passage. Puis pourtant, je pense que dans ce passage-là, on a l'essentiel, je vous dirais, les éléments cruciaux de l'Évangile qui sont là. Parce qu'on veut les avoir à notre esprit, on veut qu'ils soient clairs dans notre tête. Le pasteur Eric Raymond a écrit ceci. « Une évangélisation efficace ne dépend pas de notre intelligence ou de nos habiletés, mais d'une proclamation fidèle de l'Évangile. » Il y a de la place lorsqu'on annonce l'Évangile à des gens, lorsqu'on partage l'Évangile à des personnes, il y a de la place pour qu'on soit attentif à ce qui se passe dans la culture, qu'on soit à l'écoute de ce que les gens ont vécu. On va même en parler un petit peu plus la semaine prochaine de ça. Il y a de la place pour que je regarde c'est quoi les enjeux dans notre société, puis que j'ai l'opportunité comme d'ouvrir une voie pour annoncer l'Évangile. Il y a même de la place pour partager notre histoire à nous, moi, personnellement, comment j'en suis venu à connaître le Seigneur, il y a une place pour ça, mais tout ça ne conduira pas des gens à devenir chrétiens. Ce n'est pas l'Évangile, ça. Tout ça, c'est des opportunités, des occasions, des portes ouvertes pour aller vers l'Évangile. L'Évangile est plus simple, il est plus concis que ça. L'Évangile doit être annoncé simplement et clairement si on veut voir les gens venir à Christ. G.I. Packer, un grand théologien et un grand homme de Dieu qui a beaucoup vulgarisé la théologie pour nous. Si vous avez jamais lu Knowing God, Connaître Dieu de G.I. Packer, pour moi, c'est vraiment un de mes plus grands classiques de la vie chrétienne. Je vous encourage à le lire. Puis Packer a écrit ceci. « Notre rôle est de présenter la foi chrétienne dans un langage moderne. Mais ce n'est pas des idées modernes qui doivent habiller d'un langage chrétien. Une telle confusion serait fatale. » Je répète ça. Notre rôle est de présenter la foi chrétienne dans un langage moderne. Mais ce ne sont pas des idées modernes habillées d'un langage chrétien. Voyez-vous, l'Évangile ne change pas. Ce sont des vieilles idées parce qu'ils se sont passés à un moment dans l'histoire et elles demeurent d'actualité. Et si on adapte quelque chose au niveau de notre transmission, le contenu lui-même du message ne doit pas changer, parce qu'on parle toujours de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La bonne nouvelle que nous annonçons parle de Jésus-Christ, ce qu'il a fait de notre péché et de sa réalité historique. C'est un message tout simple, mais bien précis aussi. Bien clair et bien précis. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Je vous relis les versets 3 à 7 dans 1 Corinthiens 15, d'accord? 1 Corinthiens 15, 3 à 7. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. L'Évangile est un message qui doit être communiqué et qui doit être reçu. Ce n'est pas premièrement une expérience. Paul dit « Je vous ai enseigné comme je l'avais reçu ». Au verset 1, il dit « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu ». L'Évangile, c'est un message qui parle d'une personne. C'est un message contenu, il est précis. On le comprend, on est capable de le résumer, On le donne à quelqu'un, puis la personne décide après si elle le reçoit ou non. C'est pas quelque chose de flou. C'est pas quelque chose de mystique. C'est pas une expérience, l'Évangile. L'Évangile va me conduire à vivre des expériences. C'est vrai. Mais l'Évangile, c'est pas une expérience. L'Évangile, c'est un message clair, objectif, qu'on peut résumer, et c'est le seul moyen d'être sauvé. Il faut que le message soit clair, que le message soit clairement compris. Sans ça, il n'y a pas de salut. Juste ce que je viens de dire là, c'est très difficile à accepter pour bien des gens. Pour bien des gens. Parce qu'ils trouvent ça dur. Oui, mais si je ne comprends pas. Oui, mais si ça n'a pas été bien transmis. L'Évangile est un message qui doit être communiqué, qui doit être reçu, qui doit être compris. Sans ça, il n'y a pas de moyen d'être sauvé. Et donc, ça nous demande à nous, comme chrétiens, d'être en mesure de présenter l'Évangile brièvement, d'être capable de dire que je le comprends clairement. Fait que je vous pose une question, puis je vous invite. Bon, les adultes, vous n'êtes peut-être pas en semaine de relâche, je vous donne un devoir. C'est correct? C'est fair? C'est bon? Est-ce que vous êtes en mesure de présenter l'Évangile en une minute? Une minute, vous présentez l'Évangile, résumé, d'accord? Là, vous comprenez qu'avec une minute, on peut discuter après pendant 300 heures à répondre à des questions, mais êtes-vous en mesure de résumer, de présenter l'Évangile dans une minute? Moi, je vous donne le devoir cette semaine, à partir du passage, prenez le passage qu'on vous donne ce matin, là, puis faites-vous un résumé de l'Évangile, puis pratiquez-vous à le présenter une minute. Puis après ça, présentez-le à quelqu'un à la maison, là, avec les enfants, ou vous ferez un jeu avec ça, là, c'est pas un devoir pour les enfants, mais... Présentez-le aux enfants, à quelqu'un à la maison, puis si vous avez le guts, présentez-le à quelqu'un. Vous pourriez carrément arriver à un collègue de travail ou un ami à l'école, à l'université, n'importe quoi, puis dire, regarde, on fête tes Pâques, hein, tu sais que je suis chrétien, on fête tes Pâques dans un mois, puis souvent j'ai l'impression, quand je vois tout ce qui se passe dans les médias autour de Pâques, que les gens ne savent plus vraiment c'est quoi Pâques. Fait que je suis curieux de savoir, même si c'est clair, admettons, pour toi, tu permets-tu que je te le résume en une minute? En une minute, je vais te résumer le message de Pâques, puis tu me diras si c'est ça que tu pensais de Pâques, juste pour voir. Puis on va voir si je suis clair. Je vous mets au défi de faire ça avec des amis cette semaine, puis juste oser faire ça. Maintenant, regardez dans quelques versets, en 7 versets dans ce passage-là, on a vraiment les éléments clés de l'Évangile. Dans le passage, Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est le Sauveur, c'est le Messie, celui qui est envoyé pour sauver. Maintenant, il nous est dit que Christ est mort pour nos péchés, que cette mort-là, ça s'est fait selon les promesses de Dieu, selon ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. C'est le plan de Dieu, c'est ça qui est là. Après être vraiment mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est vraiment ressuscité le troisième jour. Il y a plus de 500 témoins qui l'ont vu. Boum, j'ai l'Évangile. Je pourrais développer pendant des heures. Il y a plein de facettes à expliquer. Écoute, si la personne à qui je parle, puis je fais juste dire ça en une minute, a compris ou m'a écouté attentivement, je vous dis, elle a des questions pour des heures, des heures, des heures. Péché, de quoi tu parles? Jésus vraiment ressuscité? La Bible, c'est une autorité? Vous comprenez, là, on est parti là, pour des heures. Mais je peux présenter l'Évangile en une minute, ce n'est pas une difficulté. Je peux le faire. J'ai un résumé de l'Évangile juste ici. Puis je vous invite à prendre l'opportunité, cette semaine, de résumer l'Évangile en une minute, de vous pratiquer à le présenter, puis vous servir, admettons, de Pâques comme excuse pour juste comme voir si vous arrivez à résumer ça en une minute en discutant avec quelqu'un. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Ça se résume très bien en une minute. Et une fois que ça, c'est clair pour moi, là, on peut partir et on peut discuter pendant super longtemps. Maintenant, l'Évangile parle de ce que Dieu a fait pour nous, pas l'inverse, d'accord? Donc, deuxième élément, l'Évangile parle de ce que Dieu a fait pour nous et non l'inverse. Dans Romains 10, 17, Paul fait écho à ce qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens 15. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » L'Évangile ne concerne pas mon histoire à moi, mon expérience avec Dieu. C'est pas l'Évangile, ça. Ça concerne l'histoire de Jésus et de ce que lui a vécu, de ce que lui a fait. C'est ça, l'Évangile. Quand je suis en train de partager mon histoire, mon expérience, je suis en train de parler de mon témoignage, peut-être de conversion, puis je vais pouvoir parler de l'Évangile à travers ça. Mais mon témoignage, ce n'est pas l'Évangile. Mon histoire à moi, ce n'est pas l'Évangile. Mon expérience, mon cheminement, ça peut aider à ouvrir la porte. Les gens peuvent comprendre un peu mieux comment tu peux vivre la vie chrétienne à notre époque, mais mon histoire est complètement secondaire. Ce que les gens ont besoin d'entendre, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a vécu dans l'histoire, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est venu. Puis je vous dirais que c'est encore plus important à notre époque, dans notre culture ici. Pourquoi? Parce que si je me concentre à raconter mon expérience à moi avec l'Évangile, bien, c'est sûr que les gens, en général, les Occidentaux, nos contemporains, vos voisins, tout ça, vont trouver ça intéressant parce que pour eux, vous êtes en train de partager le fait que, je ne sais pas moi, vous aimez la lasagne, ou vous aimez les pâtes, ou vous aimez les lentilles, ou c'est votre expérience. Donc puis ils vont y aller après ça de leur expérience à eux, puis c'est intéressant parce que je veux connaître vraiment les gens, je veux les aimer, puis je veux savoir aussi à qui je m'adresse, puis qu'est-ce qu'ils croient. Mais pour eux, c'est ça qui va se passer. On est en train d'échanger nos expériences. Toi, tu as eu ton expérience spirituelle. Moi, j'ai eu la mienne. Hier, j'étais en train de faire du sport. Je sors de mon sport. Je commence à jaser avec un des gars avec qui je fais du sport. On a du bon temps ensemble. Puis, il commence à me parler, partager son expérience à lui. Puis, on glisse tranquillement vers la spiritualité. Puis, ça, c'est son expérience. Mais si on reste là, hein, pourquoi est-ce que ton expérience aurait plus d'autorité, ferait plus de sens, serait comme... Il devrait rentrer dans ton expérience à toi, mais t'es qui, toi? Comprenez-vous? C'est pas mon expérience qui est importante. C'est pas mon histoire à moi qui est importante. C'est l'histoire de Jésus qui doit venir et faire figure d'autorité pour que les gens autour de moi se posent une question. C'est quoi leur expérience par rapport à Jésus, pas par rapport à moi? C'est encore plus important à notre époque, ça. Parce que, oui, on est des gens égaux, on est des êtres humains, puis je suis pas meilleur que la personne qui est devant moi, mais en même temps... Je crois fermement que l'Évangile est la vérité et que c'est le moyen de salut. Je le crois fermement. Les gens peuvent me dire « t'as tort, je ne suis pas d'accord ». C'est correct, on peut interagir là-dessus, vous comprenez? Mais si on reste au niveau de l'expérience, bien, c'est ton expérience, c'est la mienne, puis c'est cool, puis c'est fair. Toi, tu aimes le ski, moi, j'aime mieux les arts martiaux. Chacun notre expérience. Ce n'est pas ça l'histoire, c'est l'histoire de Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est important de réaliser que l'Évangile parle de ce que Dieu a fait pour nous, pas de ce que nous, on a fait pour Dieu. Comme dit l'apôtre dans Romains 10, il dit « La foi vient de la parole de Christ. » Et donc, ce que je veux apporter, ce sont les paroles de Christ, c'est l'histoire de Christ. Ce n'est pas mes paroles à moi, mon histoire à moi que je veux raconter. Puis l'Évangile parle de ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans. L'Évangile, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a 2000 ans, ou à peu près, Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. L'Évangile, c'est une histoire premièrement passée. Après ça, moi, au présent, je peux y croire. Mais je ne peux pas reconfigurer ce qui s'est passé dans le passé. Je ne peux pas réécrire l'Évangile, je ne peux pas le redéfinir. C'est dans le passé, c'est ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans en notre faveur. Puis moi, je décide aujourd'hui si je vais y croire. Je pourrais étendre, vous comprenez, je pourrais dire non, mais l'Évangile, on l'a vu, ça va se compléter quand Christ va revenir. Oui, c'est vrai tout ça, mais le sacrifice de Christ, le moyen de salut, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que je réponds. Puis, gardez à l'esprit que toutes les religions de la terre répondent en somme à la question suivante, sauf le christianisme. Toutes les religions de la terre répondent en somme à la question suivante. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? C'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu? Mais la réponse du christianisme, c'est rien. Pas vraiment. Tu ne peux pas faire quelque chose qui va plaire à Dieu, qui va faire que, pouf, il va te faire rentrer au ciel. Non, on est pécheurs. Donc, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et l'histoire que je veux raconter, c'est ce que Dieu a fait pour nous, pas ce que nous, on peut faire pour Dieu. Enfin, le message de l'Évangile se concentre sur la réponse de Jésus-Christ à notre péché. Donc, troisièmement, ça concerne notre péché. Il n'y a pas moyen de m'en sortir. Je vais devoir parler du péché si je veux parler de l'Évangile. Autrement, les gens ne pourront jamais sortir du péché. Ils ne pourront jamais régler vraiment leur problème fondamental qu'ils ont avec Dieu. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Christ a fait de notre péché. 2 Corinthiens 5, 21, 21, je m'excuse. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je n'ai pas le choix, je dois passer par le péché quand je veux annoncer l'Évangile. Je ne peux pas leur dorer la pilule autrement. Christ ne sera jamais merveilleux. Tantôt, on va chanter combien son nom est merveilleux. Est-ce que vous avez déjà assisté au moment où une personne comprend ce que Christ a fait pour elle en mourant sur la croix? Vous avez déjà assisté à ce moment-là où vous voyez dans ses yeux, puis vous l'entendez, la personne, tout d'un coup, là, boum, elle comprend, il a tout payé pour moi, j'ai plus rien à faire, je suis gracié, la personne comprend, il y a comme 1000 livres qui tombent de ses épaules. Mais je ne peux pas me rendre là si je ne passe pas par le péché. C'est impossible. La personne s'en vient faire une faveur à Dieu. Ouais, après tout, peut-être que tu sais, je devrais y en donner un peu, il a tellement fait pour moi. Non, tu n'as pas compris. Il a tout fait pour toi, tu ne peux rien faire pour lui. Tout ce que tu vas pouvoir faire après, c'est venir puis chanter des louanges puis dire merci, 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 merci. Toutes les œuvres du chrétien, toutes nos bonnes œuvres, tout ce qu'on fait, c'est juste des remerciements à Dieu. C'est juste ça qu'on fait. C'est rien qui va nous qualifier, c'est Christ qui l'a fait pour nous. Et je vais devoir parler du péché pour pouvoir me rendre là. Notre péché implique que nous sommes coupables devant Dieu et que la colère de Dieu repose sur nous. Je dois aller là. Et je sais, si ce matin tu es ici et tu te dis, de quoi tu parles? Dieu est en colère après nous. Vous savez, des fois on chante des chants, puis moi j'ai toujours comme deux oreilles, j'entends toujours les chants pour moi, puis je les entends pour un visiteur non chrétien, tout le temps. C'est comme, je ne sais pas, je suis fait comme ça dans ma tête. Puis là, des fois, je vois, OK, Dieu nous a libérés de la colère. Jésus nous a libérés de la colère du Père. T'sais. Je me dis, oh boy, OK, j'espère qu'ils vont venir me voir après, il faut que je parle avec eux, tu sais. Dieu est vraiment en colère. Dieu est vraiment en colère pour tout le mal qui se passe dans le monde, pour tout le mal que nous on fait, pour l'injustice de nos attitudes, notre mépris, notre manque de reconnaissance, pour les viols, pour les meurtres. Vous comprenez, Dieu est vraiment en colère parce que Dieu est vraiment juste. Avec mon épouse, on parle de ce temps-ci souvent du système de justice. C'est difficile dans notre culture à nous d'être vraiment juste parce qu'on pense que les gens n'ont pas à payer pour leurs fautes. On se pose juste la question comment on peut les réhabiliter. C'est ce qu'on cherche à faire. Fait que la notion de justice qui est fondamentale à notre société, c'est vraiment là, c'est le point de départ pour une société de droit. Si tu as des droits, tu as des devoirs, tu dois respecter les droits des autres, puis il y a une justice, il y a quelque chose qui doit être juste et équitable. Maintenant, lorsque quelqu'un manque envers la justice, dans notre culture, de plus en plus, la seule question qu'on se pose, c'est comment on peut le réhabiliter pour qu'il rentre juste dans, qu'il rentre dans la queue, qu'il suive. Tout va bien. Puis cette notion-là de justice se perd. Fait que là, quand tu arrives avec un Dieu juste qui dit, non, Dieu est vraiment fâché parce que Dieu est vraiment juste. Puis faites-vous-en pas tous les abus que vous subissez, puis tous les abus que vous faites subir. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Si ce n'est pas Jésus, c'est toi. Parce que Dieu est vraiment juste. Je n'ai pas le choix, je dois passer par là. Autrement, l'Évangile ne sera jamais là. C'est encore Eric Raymond qui dit, « Jésus a souffert ce que nous méritions pour que nous recevions ce qu'il a mérité pour nous. » Et c'est juste dans la mesure où je vais prêcher ça que les gens vont pouvoir en venir à croire dans l'Évangile. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, il y a comme un élément qui est en train de se définir tranquillement, mais l'Évangile parle de quelque chose d'objectif qui s'est passé à l'extérieur de moi. Ça ne parle pas premièrement de quelque chose de subjectif, mais c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, que Dieu a fait en ma faveur, qu'il a fait dans l'histoire, qu'il a fait dans le temps. C'est le point de Paul, je vous ai annoncé un message, quelque chose qui s'est passé, c'est défini, vous pouvez y croire ou ne pas y croire, c'est objectif, ce n'est pas subjectif. C'est pas mon expérience. Et c'est pas que mon expérience n'a pas d'importance. Elle a de l'importance. Il faut que je décide si je vais répondre à l'Évangile. Puis quand je parle avec des gens autour de moi, si je leur raconte ma réponse à l'Évangile, c'est pas sans utilité. Au contraire, ça peut vraiment être utile. Mais c'est pas ça qui est le message de l'Évangile. C'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. C'est historique, l'Évangile. Dans quelques semaines, on va fêter la Pâque. On ne va pas simplement, comme chrétien, célébrer un concept ou comme une belle idée que Dieu a eue. Nous allons célébrer, pour les chrétiens, un événement historique. Quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans de ça environ, où un homme a vécu vraiment sur la terre, Jésus de Nazareth. Et cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Il a fait de vrais miracles. Tu peux y croire, tu peux pas y croire. Mais c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous devons dire. Il y a 2000 ans, cette personne-là est venue et elle a vécu. On lit dans 1 Corinthiens 15, les versets 5 à 8. « Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Voyez-vous, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des événements historiques. Je le sais que lorsque je l'annonce, il y a des gens qui viennent de décrocher là. Bon, la mort, ça va, là. C'est correct. Tout le monde meurt un jour. Tu me dis qu'il y a un Jésus de Nazareth qui a vécu, il est mort sur une croix, il y a des milliers de personnes qui étaient là. Ben oui, les Romains crucifiaient. Tu peux faire plein de recherches historiques. Tu vas voir, c'est simple jusque-là. Mais attends un petit peu, là. Tu me dis qu'il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous voyez le souci de Paul dans 1 Corinthiens 15? Parce que Paul, ça va être tout son argument après. Il va dire, c'est parce que s'il n'est pas vraiment ressuscité, ben dans le fond, votre foi ne sert à rien parce qu'il n'y a pas vraiment d'espérance pour vous. Puis, je vous dis, tant qu'à se faire martyriser, mépriser, rejeter, n'importe quoi, je vous dis, il y a des millions et des millions de chrétiens actuellement en Chine qui sont en train de perdre leurs droits jour après jour après jour. Le régime chinois commence à se comporter comme les chrétiens, envers les chrétiens en Chine, comme l'Empire romain le faisait avec les chrétiens à l'époque. Parce qu'ils commencent à en avoir trop de ces bébites-là en Chine. Puis c'est un régime totalitaire où tu n'as pas le droit de penser par toi-même. Il faut vraiment que tu suives. Vous avez vu les dernières décisions qui ont été prises? Le chef du régime, celui qui était le président du régime, ils ont fait passer une loi, mais c'est le régime qui adopte ses propres lois, là, mais le Parti communiste a voté que celui qui est en place peut rester là jusqu'à sa mort. Fait que c'est le nouvel empereur de Chine, c'est dans un sens. Maintenant, vous avez des free thinkers qui vivent en Chine, ils sont là par millions. Eux autres, ils disent, nous, on va toujours observer toutes vos lois tant que vous ne nous demandez pas de faire quelque chose qui contrevient aux Saintes Écritures. Mais si vous nous demandez quelque chose comme ça, ben, on est prêt à mourir pour ça. Fatigant, ça, là. Tu sais, je veux dire, s'ils sont 10, ça va, mais quand ils sont rendus des millions, puis des millions, puis des millions, on estime à plus de 100 millions les chrétiens en Chine, ça commence à être fatigant, là, cette gang-là. Et ils perdent des droits de jour en jour. On fait exploser leur bâtiment d'église à la dynamite. Dernièrement, il y a un mois environ, là, la plus grosse église évangélique de Chine, boum, ils l'ont fait sauter. Là, deux ans, ils avaient arrêté tous les dirigeants de l'église. Là, ils ont fait exploser le bâtiment de jour en jour. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là acceptent de souffrir tout ça? Parce que pour eux, ce n'est pas juste une doctrine, ce n'est pas juste une philosophie. C'est quelque chose qui s'est passé objectivement dans l'histoire de l'humanité. Et Christ est mort pour nous, donc aux yeux des chrétiens là-bas, si ça veut dire que je dois perdre tous mes droits, voire mourir pour Christ, it's a fair place, c'est correct. C'est correct, ça. Voyez-vous, l'Évangile est historique. Et c'est tout le point de Paul. Si l'Évangile n'est pas historique, l'Évangile n'existe pas. C'est juste une philosophie comme les autres. Puis c'est une philosophie sur laquelle, je veux dire, tous nos plus grands efforts sont basés sur l'espoir d'une vie à venir réunie avec Dieu grâce au sacrifice de Christ. Puis on passe le temps de dire, regarde, t'as péché, va confesser ton péché, repens-toi, il t'a déjà pardonné. Trucide-toi pas pour ça, là, ça donne rien. Là. Fais juste te repentir de ton péché. L'Évangile est historique. Alors ça, c'est l'Évangile qu'on a reçu. C'est l'Évangile qui nous a été transmis. Vous avez ici le résumé de l'Évangile. Voyez comment c'est extérieur à nous. Ça concerne l'œuvre de Christ. Ça concerne l'œuvre de Christ en notre faveur, pas ce que nous, on pouvait faire. Ça concerne l'œuvre de Christ pour dealer, je m'excuse, pour prendre soin de nous libérer de nos péchés, de leurs conséquences, de la colère de Dieu. Ça s'est inscrit dans l'histoire, c'est extérieur à nous. Et puis là, enfin, j'arrive à ma réponse à moi, mon expérience à moi. Parce que je dois répondre à ce message-là qui s'est passé il y a 2000 ans, à cet événement-là, à ce que Dieu a fait dans notre faveur. Là, j'ai une part. L'Évangile est une bonne nouvelle pour celui qui croit. Et ça, c'est ma part. Ça, c'est ma part aujourd'hui, c'est ta part. Lorsqu'on se réunit ensemble le dimanche matin, puis on vient chanter des louanges, lorsqu'on ouvre la bouche pour annoncer Christ, on est en train de déclarer notre foi en lui. C'est ça qu'on est en train de faire. Romains 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est ta part, ça. Confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quand je prêche l'Évangile à mes proches, puis que par la grâce de Dieu, ils changent leur avis sur Jésus. Ça, c'est leur part. Voyez-vous, c'est ça qu'on cherche. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'illustration, l'entremetteur. Dans le fond, quand j'annonce l'Évangile, je vais voir des personnes, ça peut être mes enfants, ça peut être mes voisins, ça peut être mes collègues, des gens qui ont une opinion ou pas sur Jésus. Jésus n'est pas important à leurs yeux, ils en ont entendu parler, c'est une affaire peut-être qui est pleine de poussière, puis tout ça. Puis tout ce que je veux faire, c'est de leur dire, non, ce que tu as entendu sur lui, c'est du commérage, tu ne le connais pas vraiment, laisse-moi juste te le présenter. Je veux te présenter une personne, Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans l'histoire. Laisse-moi te le présenter, puis ma prière, c'est que tu changes d'opinion sur Jésus. C'est que tu changes d'avis sur Jésus, que tu décides de croire en lui vraiment. De tourner vers lui. Mon avis sur Jésus, dorénavant, je suis convaincu qu'il est Seigneur. Je suis convaincu qu'il est mort. Je suis convaincu qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et à présent que je suis convaincu, je suis prêt à le déclarer. Je suis prêt à le confesser de ma bouche, à aller vers des gens, puis en une minute, présenter l'Évangile. Parce que j'ai cru. Mon opinion sur Christ est complètement différente. C'est mon Seigneur. C'est lui qui a fait l'œuvre à ma place. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Ça a bouleversé ma manière de vivre parce que maintenant, je rends grâce à Dieu. Et qu'est-ce que je fais? J'annonce l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. J'annonce l'Évangile de Jésus-Christ, c'est tout. Pas mon expérience, pas ma conversion. Il y a une place pour ça, mon témoignage. On peut échanger des idées ensemble. Mais vous savez, lorsque vous commencez à présenter l'Évangile, puis à un moment donné, vous voyez comme dans le regard de la personne devant vous qui a décroché. Puis elle a dit, OK, d'après moi, vous avez fait n'importe quoi avec la Bible. C'est pas ça qu'a dit la Bible. Souvent, la meilleure réponse, c'est juste d'ouvrir les Écritures et de lui dire, regarde, dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi qu'est-ce qu'il y en est. Puis laisser la personne elle-même interagir avec le texte, interagir avec la Bible. C'est ça l'Évangile qu'on veut annoncer. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on va louer ensemble Jésus-Christ. On va louer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait il y a 2000 ans, en notre faveur. On ne va pas louer Dieu parce qu'on est beau, fin puis capable, puis parce qu'on veut aimer Dieu, puis on veut lui dire combien nos cœurs sont entiers pour lui. On veut célébrer son œuvre en notre faveur. C'est ça qu'on veut faire ensemble. On veut reconnaître ce qu'il a fait pour nous et combien on a été libérés de nos péchés. Tout à l'heure, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va renouveler nos vœux. C'est ça qu'on va faire. Envers Christ ensemble. Alors, je vous invite à vous lever. Puis on va aller dans la prière ensemble. Puis on va chanter la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, tu n'es pas des principes, une religion, un chemin à imiter pour gagner le ciel. Seigneur Jésus, tu n'es pas simplement une expérience psychologique. qui nous rassemblerait parce qu'on a tous vécu cette expérience-là. Non, nous croyons fermement, Seigneur, quitte à passer pour des fous, quitte à passer pour des flyers, des gens qui croient n'importe quoi, Seigneur. Nous croyons parce que nous avons lu, nous croyons parce que nous avons étudié, nous croyons parce que nous avons entendu. Nous croyons, Seigneur, parce que nous avons sondé ce message qui te concerne. Nous croyons, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes pécheurs par nature et qu'on avait besoin d'un Sauveur qui vienne faire une œuvre incroyable pour nous, Seigneur. Et ce matin, on est assemblés pour te célébrer, pour t'adorer, pour élever tes louanges, Seigneur, pour élever ton nom merveilleux. Viens, Seigneur, saisir nos cœurs ce matin et donne-nous la force de professer, de confesser, Seigneur, de proclamer bien fort que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen.